Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Vous êtes en ce moment avec le groupe Amnesty d'Évreux. Voilà, sont présents à l'émission.
Bonsoir.
Ronan, aux manettes. Edith.
Bonsoir.
Claire-Lise.
Bonsoir.
Et moi, Françoise. Voilà, on est content de vous retrouver en ce 31 janvier. Bon, je voulais vous parler de Donald Trump.
On va peut-être... Il y a beaucoup de choses à dire sur le bonhomme.
On va peut-être présenter un petit peu, tu dois l'avoir, le sommaire de
nous
l'émission.
Nous dire un peu de,
De quoi on va parler pendant l'émission.
De quoi on va parler.
Bon, alors, moi j'ai l'intention de parler un peu de Donald Trump. Ensuite, Claire-Lise parlera de l'Europe et des lois antiterroristes. Edith parlera de certaines tribus, les Rohingyas.
Allez, ne te trompe pas, c'est où ça?
Au Myanmar.
Bien.
Voilà, moi je parlerai des Mapuches. En Argentine. Ronan, lui, fera un sujet sur Skype.
Un coup de gueule, ou deux coups de gueule même.
Bon, Edith a envie de voyager, donc elle ira en Chine. Ronan au Niger, et Claire-Lise, elle restera bien à Évreux.
Je vais vous ramener à Évreux et je vais vous causer, parce que je ne suis pas contente.
Bon, tu gardes ta colère pour tout à l'heure, Claire-Lise.
Vas-y, Françoise, tu peux y aller maintenant.
Bien, eh bien, oui, vous savez tous que Donald Trump a été élu président des États-Unis, qu'il a pris ses fonctions fin janvier, il n'y a pas longtemps. Et déjà, je vous indique que les membres et sympathisants d'Amnesty USA vont demander au Congrès de protéger les personnes en quête d'asile, y compris celles qui fuient les violences d'Amérique latine. Ils disent « Nous ne laisserons pas Trump créer des camps de réfugiés entre les US et le Mexique. Nous défendrons les villes sanctuaires. »
Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne font pas partie d'Amnesty et qui manifestent aussi aux États-Unis.
Bien
on
sûr,
a vu dans les aéroports,
sûr.
On a vu dans les villes. Voilà, ça fait...
Disons qu'il fait un peu fort, là, parce que quand même, entre les droits humains, entre les droits des femmes, entre les lois de protectionnisme...
Je pense qu'il envoie une crampe, parce que la semaine dernière, il a signé je ne sais pas combien de trucs.
Il annule des traités.
Il n'arrête pas.
Donc, voilà.
Et donc, il vient d'interdire, vous l'avez entendu dans la presse, d'entrer sur le territoire les réfugiés provenant des pays islamistes.
Sauf ceux d'Arabie Saoudite.
Oui, ils ont des
Saoudite. Bref.
Alors que les Syriens, qui sont quand même dans une sérieuse panade, non, pas aux États-Unis.
Bien sûr.
Le droit, comment ça s'appelle là? Le droit d'asile? Ça vous dit quelque chose?
Attends, peut-être qu'il y a des grosses histoires de, quand même, de complexes pétroliers, d'affaires et de business par derrière.
Et surtout qu'on sait que la création des États-Unis, c'est quand même pas mal avec l'immigration. Donc aujourd'hui, qu'ils fassent ça, c'est...
Eh bien, c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il fait.
Oui.
Maintenant,
oui.
L'opposition, et ça fait parler aussi au niveau des gens, ça fait regrouper les gens. Et Françoise, raconte-nous la suite.
Mais il est aussi prêt à violer les droits des peuples indigènes.
En fait, il n'a que des mauvaises intentions, cet homme-là.
Oui. J'ai donc, peur, vraiment, Françoise. Quand tu...
Moi aussi, je me suis dit...
Il faut être vigilant.
On part sur un sujet...
Elle rigole et puis il n'y arrive
plus. C'est-à-dire qu'il ne semble pas tellement respecter ce qui nous semble, nous, important, c'est-à-dire les droits humains. Et que ses arguments, à part America first, c'est quand même bien compliqué à pouvoir enregistrer ses arguments comme quelque chose d'important pour les États-Unis actuellement.
C'est-à-dire qu'il a l'air plutôt parti pour gérer les États-Unis comme une grosse entreprise.
Et voilà.
C'est un businessman. Mm-hmm. Donc, de toute façon, il ne fait pas dans le sentiment, il le dit lui-même.
Après, il y a le Congrès.
Oui, là, alors le Congrès, justement.
Ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir des contre-pouvoirs.
Oui, agir contre ses décisions.
Donc, imaginez-vous bien qu'on va surveiller ça de près. Là, c'est de l'actualité tout à fait, comme dit Ronan, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des signatures de Trump qui changent la vie des Américains oui. et la vie des gens qui veulent aller aux États-Unis. C'est quand même important, ça.
Ah bah, il vient de dénoncer aussi le traité de Paris par rapport à toutes les lois qui avaient été prises par rapport au réchauffement climatique.
Ouais, il a dénoncé. Oui, oui. Bon, enfin, c'est tout ce qu'il avait dit qu'on ne pensait pas. Mais là, il est parti à une vitesse catastrophique. Quoi. Et parce qu'il y a des blocages dans les aéroports, parce qu'en fin de compte, lui il est tranquille, parce qu'en fin de compte, c'est les compagnies aériennes, en fin de compte, j'ai bien compris,
qui sont obligées de le faire.
Donc, c'est comme le mur, il fait construire un mur, mais ils vont envoyer la facture au Mexique, il y a des trucs. C'est vraiment.
Mais là, Angela Merkel a pris position quand même aussi. Hein.
Voilà, ben maintenant, il y a la réponse des autres politiques, mais réfléchissons bien.
Ouais, parce qu'en France, il y a des élections bientôt.
Il fait actuellement, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais ce qu'il a dit, et tout de suite, les conséquences se voient. Et pas forcément positives. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de positif, à part effectivement sa gestion à la mode de grand trust américain, comme tu dis, Claire-Lise. Mais réfléchissez bien. Il y a d'autres idées qui sont pas forcément, qui peuvent être mises sur, dans la scène politique, ça peut aussi bien en France, et qui pourraient être aussi compliquées.
Oh bah oui. Oui.
Et râler après.
C'est un peu tard.
Mais empêcher que cela arrive au pouvoir, c'est plus efficace.
Bon, mais Claire-Lise va nous parler de l'Europe maintenant.
Alors, en fait, il y a 15 jours, je vous avais dit que je vous réservais un petit peu un document, parce qu'il y a un rapport antiterroriste en Europe qui a été publié par Amnesty International et donc qui a été publié le 17 janvier 2017. Donc c'est un rapport en fait qui est établie depuis fin 2014 et qui suit la mise en œuvre des nouvelles lois et politiques visant à s'attaquer à la menace terroriste en Europe. Donc Amnesty International vient de publier un rapport sur les mesures disproportionnées prises par certains pays européens. Des recherches sur le terrain ont été menées par le biais d'entretiens avec des personnes victimes de mesures de lutte contre le terrorisme, ayant porté atteinte à leurs droits humains, et avec leurs avocats et leurs familles. Alors, il y en a eu en France, il y en a eu en Hongrie, par exemple. Et dans d'autres cas, des entretiens ont été réalisés avec des législateurs, des responsables politiques, des membres de l'appareil judiciaire et des experts indépendants, comme aux Pays-Bas, en Pologne et au Royaume-Uni, entre autres pays. Donc, pourquoi ils ont choisi l'Europe ? Les recherches pour ce rapport se sont limitées à l'Union européenne pour plusieurs raisons. D'abord, l'Union européenne représentait une entité régionale distincte au sein de laquelle les attentats mentionnés ci-dessus avaient eu lieu. Donc, des initiatives étaient en cours au niveau communautaire pour répondre à certains aspects de la politique de lutte contre le terrorisme, comme par exemple la proposition de directive sur les combattants terroristes étrangers, et une tendance qui se dégage clairement parmi les États membres qui s'inspirent les uns les autres pour élaborer leurs mesures régressives de lutte contre le terrorisme. Donc ils ont passé 14 pays européens à la loupe. Donc les chercheurs des bureaux nationaux d'Amnesty International dans les États membres de l'Union européenne ainsi qu'au secrétariat international au Royaume-Uni ont réuni des informations sur les évolutions législatives souvent adoptées via des procédures accélérées dans 14 pays. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Certains pays donc, figurent plusieurs fois dans le rapport et d'autres une seule fois, en fait, c'est par section, c'est par thème, si vous voulez. Et les employés du bureau des institutions européennes d'Amnesty International surveillent et dénoncent depuis longtemps les évolutions des traités et la législation relative à la lutte contre le terrorisme au niveau de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Les informations tirées de leur travail ayant été intégrées dans ce rapport cherchent à illustrer la tendance régionale en faveur d'une sécurisation profonde et permanente. Ça rejoint un petit peu ce qu'on était en train de dire sur M. Trump aux États-Unis. Hein. C'est pas rassurant quand même ce qui est en train de se faire. Alors, il y a d'autres organisations de défense des droits humains et de plaidoyer qui se sont déjà employées à analyser ces programmes de manière détaillée. Ce rapport tient compte de tels programmes et précise, lorsque cela est pertinent, les liens inextricables qui existent entre ceux-ci et les mesures répressives dont il est question. Tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas mentionnés dans ce rapport, mais la quasi-totalité d'entre eux a promulgué des projets de loi, adopté des lois et mis en œuvre des opérations de sécurité similaires à ceux décrits dans ce rapport. En ce qui concerne la criminalisation des voyages et d'autres actions associées au phénomène que certains désignent sous le nom de combattants terroristes étrangers, chaque membre de l'ONU, y compris les membres de l'Union européenne, est contraint par la résolution numéro 2178 du Conseil de sécurité de l'ONU de promulguer des lois pour ériger en infraction de telles activités. Si un État membre de l'Union européenne n'est pas mentionné dans ce rapport, c'est principalement à cause d'un manque d'accès aux informations pertinentes de cet État. Cela ne veut absolument pas dire que cet État a résisté à la tendance de sécurisation. Donc, je trouve que quand même que c'est pas très engageant, parce que les peurs et les préjugés s'enracinent en Europe. Pierre après pierre, l'édifice de la protection des droits fondamentaux, construit avec tant de soin après la Seconde Guerre mondiale, se fait démanteler. Donc le rapport cherche à donner une vue d'ensemble de l'état de la sécurité nationale en Europe. Il montre à quel point la sécurisation de l'Europe s'est étendue et enracinée depuis 2014. Ce rapport révèle un monde dans lequel la peur,
Alors, on va t'aider. Vas-y, tranquillement.
L'aliénation voilà. Et les préjugés rognent progressivement les pierres angulaires de l'Union européenne que sont la justice, l'égalité et la non-discrimination. Les exemples de violations des droits humains ou de préoccupations en matière de droits humains présentés dans ce rapport sont issus des 14 États membres de l'Union européenne et des programmes de lutte contre le terrorisme mis en œuvre au niveau de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Alors, c'était un gros dossier.
Alors, est-ce que tu as des exemples ?
Les exemples, oui, je peux vous... Voilà. Des exemples, par exemple, sur ce qui... Des luttes antiterroristes sur un même modèle. Par exemple, les principales caractéristiques que ces programmes de lutte contre le terrorisme partagent sont des procédures accélérées, grâce auxquelles les lois sont adoptées à la hâte, avec très peu, voire aucune consultation auprès des parlements, des experts ou d'autres membres de la société civile. Des dérogations aux engagements en matière de droits humains, dans la loi ou dans la pratique, avec bien souvent des effets néfastes sur la vie de la population. La consolidation du pouvoir dans les mains de l'exécutif, de ses agences et des services de sécurité et de renseignement, ne laissant souvent que peu, voire aucun rôle au système judiciaire pour autoriser les mesures ou pour effectuer un contrôle réel. L'inefficacité ou l'absence de mécanismes de contrôle indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre des mesures et des opérations de lutte contre le terrorisme, d'identifier les abus et d'amener les responsables de violations des droits humains à rendre des comptes. Une définition vague et extrêmement large du terrorisme dans la législation en violation du principe de légalité, ce qui mène à de nombreuses violations. Des exigences en matière de preuves revues à la baisse, passant de la norme traditionnelle du soupçon raisonnable au simple soupçon, voire dans certains États à une absence totale d'exigences en matière de soupçon. Des liens très faibles, voire parfois inexistants, entre des soi-disant actes préparatoires ou des infractions non réalisées et l'infraction pénale elle-même. L'utilisation de mesures de contrôle administratif pour restreindre le droit de circuler librement et la liberté d'association de certaines personnes en lieu et place de sanctions pénales qui leur offriraient de meilleures garanties contre les abus. La pénalisation de nombreuses formes d'expression qui sont loin de constituer une incitation à la violence, ce qui menace la contestation légitime, la liberté d'expression et la liberté artistique. Je vous rappelle quand même qu'au moment de la COP21, il y a plein de manifestations qui ont été interdites, des écologistes qui ont été emprisonnés parce qu'on les a quand même pris.
Ils ont été emprisonnés ou ils ont été obligés de rester chez eux. Quoi. Voilà.
Ils ont été assignés à résidence.
Mais ça rappelle pas mal l'état d'urgence que tu déclines comme loi, c'est-à-dire les.
On va en parler après.
D'accord.
Moins de possibilités de contester les mesures et les opérations de lutte contre le terrorisme, en particulier en raison de l'utilisation de l'état de preuve secrète qui ne sont généralement pas divulguées aux personnes affectées par les mesures ni à leur avocat. L'invocation par les États de problèmes de sécurité nationale ou de menaces terroristes afin de prendre arbitrairement pour cible les réfugiés et les migrants, les défenseurs des droits humains, les militants, les opposants politiques, les journalistes, les minorités et les personnes exerçant en toute légalité leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Et le manque d'attention portée aux besoins et à la protection des droits de groupes particuliers, notamment les femmes et les enfants. Donc voilà, tout ça, en fait, ça s'est généralisé dans de nombreux pays d'Europe, y compris la France, et notamment avec l'état d'urgence. Donc, des mesures disproportionnées et dangereuses inscrites dans la durée. Le fait que dans toute l'Union européenne, les États réagissent au terrorisme ou à la menace d'attentats violents par des mesures leur permettant de déclarer et prolonger plus facilement l'état d'urgence est extrêmement alarmant. Dans de nombreux États, des mesures d'urgence censées être temporaires ont été inscrites dans le droit pénal ordinaire pour durer. Des pouvoirs destinés à être exceptionnels prennent un caractère de plus en plus permanent dans le droit national. Et compte tenu de la fébrilité de la politique au sein de l'Union européenne, les électeurs doivent faire preuve d'une extrême prudence quant à l'éventail des pouvoirs et l'étendue du contrôle sur leur vie, qu'ils sont prêts à conférer à leur gouvernement. La montée des partis nationalistes d'extrême droite, le ressentiment à l'égard des réfugiés, les préjugés sur les musulmans et les communautés musulmanes, leur discrimination, l'intolérance à l'endroit des discours ou d'autres formes d'expression. Le résultat de tout cela, c'est que ces pouvoirs d'exception risquent de cibler certaines personnes pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec une réelle menace pour la sécurité nationale ou des actes à caractère terroriste. En réalité, c'est déjà ce qui se produit en Europe. Le seuil à franchir pour déclencher et prolonger des mesures d'urgence a déjà été abaissé et il risque de l'être encore davantage dans les années à venir. Le droit international relatif aux droits humains stipule clairement que les mesures exceptionnelles ne peuvent être appliquées que dans des circonstances réellement exceptionnelles, à savoir en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Mais l'idée selon laquelle l'Europe serait confrontée à un danger permanent commence à s'enraciner. Voilà, donc ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, ouvrez aussi la bouche pour dire ce que et dénoncer ce qui se passe. Et surtout, soyez vigilants sur ce qui risque d'arriver en France, comme ailleurs. Et
voilà. Actuellement, voilà. Nous sommes sous l'état d'urgence. Donc, les pouvoirs sont quand même élargis. Et les possibilités d'arriver à ce que nous décrit Claire Lise, selon la personne qui gère l'État, effectivement, ça peut effectivement dégénérer rapidement sur une société qui ne nous plairait pas, nous,
donc,
et
à vous. Soyons non plus vigilants.
Ne renonçons pas aux droits humains. Voilà.
Bien. Un peu de
musique.
Une petite musique.
Oui, on va vous apaiser un peu.
Voilà, après cette discussion rapide et intense.
My time, it isn't long.
Donc, nous voici de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'écouter, je pense que tout le monde a reconnu, c'était Patti Smith. Et le morceau, c'était Drifter Escape.
Bien.
Ah, je sais, ça a dû m'améliorer dans l'anglais.
Bon, faut encourager Renan. Allez, encore un peu d'anglais.
Alors, Edith, tu nous parles des Rohingyas.
Voilà. Alors, pour ceux qui sont des fidèles auditeurs, il y a 15 jours, Renan nous a fait une action urgente qui concernait le peuple Rohingyas, qui est une minorité de Birmanie.
Tout à fait.
Et c'est vrai que moi, j'avais vu des articles parlant de la Birmanie, et c'est un pays qui me fait rêver. Alors, pendant des années, je ne voulais pas y aller, parce qu'il y avait la junte militaire. Bon, maintenant, depuis un an, Aung San Suu Kyi a eu un triomphe électoral et elle a pris le rôle de chef de l'État. Donc peut-être qu'un jour, j'irai voir la Birmanie et ce qu'on appelle maintenant le Myanmar. Mais là, c'est effectivement ce qui se passe tout de suite en Birmanie. Eh bien, j'ai vraiment envie de vous en parler et de faire déjà un petit rappel sur l'histoire du Myanmar, l'histoire de la Birmanie et comment on en arrive à ces minorités qui sont en réel danger.
Et il s'appelait comme ça avant?
Oui, parce Birmanie. Que Birmanie, ça me faisait plus rêver. Myanmar, bon, voilà, c'est joli aussi.
Il s'appelait Myanmar avant Birmanie.
Oui.
Parce que c'est le royaume.
Je vous ai taquiné l'autre fois, mais les philatélistes, par exemple, ils connaissent bien parce que c'est sur les timbres, c'était déjà écrit.
Alors, qui peut dire si Clerlise est philatéliste? Oui, non, vous ne savez pas. Vous pourrez voter à la fin de l'émission.
Voyons voir. Est-ce qu'elle a éteint son réveil avant de commencer l'émission?
Voilà, mais ça, on vous racontera après. Moi, je vais revenir en Birmanie. Donc, Aung San Suu Kyi, la dame de la Birmanie, qui a effectivement, grâce à son parti, pris le pouvoir il y a environ un an. Donc, depuis, ils essayent d'avoir des nouvelles lois. Donc, il y a un nouveau parlement. Dans ses rangs, il y a, écoutez bien, des poètes, des essayistes et des romanciers. Ces hommes de lettres, ce sont tous des anciens dissidents, ont la lourde tâche d'écrire la loi et de configurer en partie le pays de demain. Quand on lit ça, bon, ça fait un petit peu rêver. Mais bon, vous allez voir.
C'est sûr que Trump, il n'a pas pris des poètes.
Et en plus, ils acceptent ces intellectuels d'être pratiquement isolés pour pouvoir travailler sur les lois et contribuer à construire un nouveau pays. Bon, dans la réalité du pouvoir, Aung San Suu Kyi demeure la figure principale de l'exécutif et le symbole de son parti, le Parti démocratique. Alors, elle essaye actuellement d'avoir la paix entre les 10 multiples ethnies qu'il y a en Birmanie. Alors, je vais vous faire des extraits d'un livre d'une chercheuse, Karine Jacquet, qui explique un petit peu comment la Birmanie a été créée, donc l'ancien Myanmar. Elle a publié récemment un livre, Unité et diversité, les défis de la transition, aux éditions MKF. Alors, elle m'excusera, j'ai fait des coupes un petit peu dans ses réponses, mais j'ai essayé de ressortir un peu où en est la Birmanie et comment elle a été créée. Donc, la question des minorités renvoie à l'histoire de la construction du pays. Avant la colonisation, l'entité Birmanie n'existait pas. Ce sont les Britanniques qui ont assemblé des royaumes qui successivement se sont absorbés les uns les autres. Pour les militaires, il s'agissait d'assurer la cohésion de l'Union du Myanmar, non officielle de la Birmanie, et de faire tenir par la coercition un pays composé de groupes ethniques très divers. Alors les deux tiers de la population sont des Bamars. Le tiers restant est composé de toutes sortes de groupes ethniques. Les minorités sont perçues par la majorité Bamar comme des éléments déstabilisateurs qui affaiblissent le pouvoir. Ce manque de tolérance est l'héritage des années de dictature. Donc, il y a eu un essai de conférence de paix en août 2016, mais ça ne va pas suffire, même si on essaierait d'aller vers un fédéralisme englobant tous les minorités et la majorité Bamar. Mais donc, cette chercheuse à qui on pose comme question quelles sont les clés pour résoudre le conflit, elle dit « il faut recréer la confiance ». En toute logique, il s'agit d'intégrer les armées ethniques dans l'armée nationale, mais on n'en est pas là. En plus, il y a un enjeu de ressources naturelles au cœur du conflit. Le jade de l'État Kachin assure des revenus estimés entre 12 et 30 milliards de dollars. Donc c'est une manne qu'actuellement se partagent les généraux et le peuple Kachin. Donc si actuellement le nouveau gouvernement voudrait remettre ça à plat et ouvrir des possibilités de licence octroyées de façon, on va dire, simple, tout le monde n'est pas d'accord, on le comprend, par rapport à ces enjeux d'argent. Alors, quels pourraient être les éléments fédérateurs, lui demande-t-on ? La fierté d'être birman est très partagée. Mais plutôt que de faire la diversité une force, on a présenté cette diversité comme une faiblesse. Le récit ethnique a été utilisé par l'armée pour asseoir sa légitimité et la diversité est niée à l'école, ce qui pose problème pour la réconciliation. On présente les minorités ethniques souvent sous un aspect très folklorique. Et alors, on va arriver à la minorité Rohingyas, qui est une minorité musulmane. Pourquoi est-elle particulièrement victime de discrimination ? Alors les Rohingyas, dit-elle, sont dans une situation désespérée. Utiliser leur nom est devenu un problème politique. Ce qui se passe actuellement a été préparé depuis des décennies par la politique de l'armée qui s'est servie du bouddhisme comme pilier. La loi de 1982 ne les reconnaît pas comme des citoyens à part entière. Le gouvernement semi-civil du président Thiện, donc c'était avant Aung San Suu Kyi, entre 2011 et 2015, a véhiculé un discours autour de la crainte d'une invasion démographique musulmane. Alors maintenant, après la levée de la censure, les réseaux sociaux se font écho de ce fantasme. Cette rhétorique islamophobe, reprise par des moines extrémistes, s'appuie sur l'actualité internationale et la crainte de la menace islamiste. Les musulmans sont devenus un ennemi commun, pratique, utile pour fédérer. La question est actuellement bloquée. D'autant que la communauté internationale qui enjoint les Birmans au respect des droits de l'homme est perçue comme partiale et favorable aux musulmans. Alors, voilà, maintenant vous avez géopolitique, construction du pays, et là j'en viens à ce qui se passe actuellement. Donc actuellement, le 9 octobre, il y a eu une attaque contre des postes de police aux frontières de l'État d'Arakan, qui est l'État des Rohingyas. Donc cette attaque a été attribuée à des extrémistes de la minorité Rohingyas et elle a fait 9 morts chez les policiers. Et depuis, les forces de sécurité du Myanmar ont lancé une opération de sécurité d'une grande ampleur dans le nord de l'État. Ce qu'on peut dire, c'est que la réaction est disproportionnée par rapport à la menace de sécurité. Plusieurs témoins ont expliqué que des soldats sont rentrés dans les villages, ont ouvert le feu au hasard et tué les villageois, hommes, femmes et enfants confondus. Dans au moins un cas, Les soldats ont traîné des personnes hors de chez elles et les ont abattues. On n'est même pas en mesure de confirmer le nombre des victimes. Le 12 novembre, l'armée a déployé 2 hélicoptères de combat au-dessus d'un groupe du village du nord de l'état d'Arakan, après un accrochage avec des extrémistes présumés. Les hélicoptères ont ouvert le feu au hasard sur les villageois paniqués qui essayaient de fuir, en entouant un homme indéterminé, un nombre indéterminé. Le lendemain, les soldats ont incendié des centaines de logements. Alors nous avons un témoignage d'un homme de 30 ans. J'aurais pu le faire lire pour Renan, mince. Je vais le lire. « Nous avons eu peur lorsque nous avons entendu le bruit de l'hélicoptère. Les soldats tiraient au hasard. S'ils voyaient quelqu'un, l'hélicoptère ouvrait le feu. Ils ont tiré pendant longtemps. Nous n'avons pas pu dormir cette nuit-là et le lendemain matin, l'armée est venue à nouveau et s'est remise à tirer. » Alors pour continuer un peu dans les exactions des militaires, les soldats du Myanmar ont aussi violé et agressé sexuellement des femmes et des filles durant les opérations de sécurité. Lors des villages, les descentes des hommes dans les villages, et on a recueilli plusieurs femmes rohingyas qui nous ont dit avoir été violées par des soldats, ainsi que le récit d'autres personnes qui ont été témoins de ces viols. Des travailleurs humanitaires au Bangladesh, où certaines femmes ont pu arriver, ont aussi confirmé que cela s'est passé. Donc un autre témoignage de Fatima, une femme rohingyas de 32 ans qui a fui au Bangladesh et qui a déclaré que des soldats étaient arrivés dans son village, l'avaient traînée dans une rizière et ils l'ont violée. Trois soldats m'ont violée, dit-elle. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite parce que j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée le lendemain matin, je ne pouvais pas me lever. Alors j'ai traversé la rizière en rampant. Alors ça a continué aussi. L'armée et la police des frontières ont arrêté des centaines d'hommes, principalement des anciens, des hommes d'affaires et des responsables communautaires. Notre rapport fait état d'au moins 23 cas où les Rohingyas ont été arrachés à leur famille par des policiers sans aucune information sur le lieu où on les emmenait, ni ce qu'on leur reprochait ne soit fourni à la famille ou à eux-mêmes. Les médias publics au Myanmar ont affirmé depuis le début de l'opération militaire qu'au moins 6 personnes sont mortes tandis qu'elles étaient incarcérées, ce qui fait craindre que la torture ait été employée en détention. Les forces de sécurité n'hésitent pas à frapper physiquement les Rohingyas lorsqu'elles les arrêtent. Une femme a décrit les tactiques brutales employées par les forces de sécurité lorsque ses 2 fils ont été appréhendés. Mes 2 fils ont été attachés. Les soldats leur ont lié les mains derrière le dos et les ont frappés sauvagement. Les soldats leur ont donné des coups de pied dans le torse. Je l'ai vu de mes propres yeux, je pleurais très fort. Et après, il y a la politique de la terre brûlée. Grâce à des entretiens avec les victimes et l'analyse de photos d'images satellites, nous pouvons confirmer que l'armée a mis feu à près de 1200 maisons et immeubles où vivaient les Rohingyas et a parfois brûlé des villages entiers. Et plusieurs témoins ont d'ailleurs indiqué que les soldats ont utilisé des armes, apparemment des lance-grenades propulsées par des roquettes pour détruire les maisons. L'ampleur de la destruction de villages où l'armée se serait heurtée à des activistes est particulièrement importante et indique que les forces armées ont mené des attaques en représailles. Et ce qui se passe maintenant dans l'état d'Arakan, c'est qu'il est complètement privé de soins. Que les personnes qui restent là-bas, donc des milliers, des dizaines de milliers de vies, sont menacées par une crise humanitaire. Car déjà, avant le 9 octobre, le niveau de malnutrition est extrêmement élevé dans cette région, où 150 000 personnes dépendent d'une aide alimentaire pour survivre. Actuellement, les autorités du Myanmar ont presque entièrement interdit l'acheminement de l'aide humanitaire dans le nord de l'état d'Arakan. L'interruption des services de santé aussi est particulièrement inquiétante pour les jeunes femmes enceintes, les jeunes mères, dont beaucoup n'ont aucun moyen de recevoir des soins médicaux. Au moins 30 000 personnes forcées à fuir de chez elles ces derniers mois sont essentiellement livrées à elles-mêmes, les organisations humanitaires n'ayant pas la possibilité de te rendre auprès d'elles. Donc là, franchement, cette situation, elle fait mal par rapport à la politique qu'on pensait avoir dans le Aung San Suu Kyi. Donc, on va quand même relativiser, c'est que l'armée est indépendante du pouvoir dans le Aung San Suu Kyi. Mais la capacité dans le Aung San Suu Kyi de dénoncer cette politique de l'armée... Actuellement, elle s'abstient de s'exprimer contre ces atrocités. Elle semble même y être réticente et où se trouver dans la capacité de le faire. Alors, les autorités Myanmar ont choisi de fermer les yeux sur les violations commises par l'armée dans l'état d'Arakan. Ces abus absolument indéfendables doivent cesser immédiatement et des enquêtes indépendantes doivent avoir lieu. Car les autorités du Myanmar nient que les soldats aient commis des violations des droits humains dans le cadre de cette campagne, malgré l'accumulation d'éléments. Donc, on pourrait même parler, Amnesty parle, d'un futur crime contre l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe pour les Rohingyas qui ont réussi à passer au Bangladesh ? C'est la frontière avec l'état d'Arakan. Alors, il y a au moins des dizaines de milliers qui ont réussi à passer la frontière au cours de ces deux derniers mois. Le nombre de réfugiés, c'est absolument impossible. Les Nations Unies pensent au moins 27 000. Donc, en réaction à cet afflux, le Bangladesh a renforcé sa politique de longue date consistant à fermer sa frontière avec le Myanmar et à arrêter et renvoyer des milliers de personnes ayant essayé de fuir. Même si cela est illégal au terme du droit international, car il s'agit d'une atteinte au principe de non-refoulement, qui interdit absolument le renvoi forcé d'une personne dans un pays ou dans une zone où elle court un réel risque d'être victime de graves violations des droits humains. Donc les réfugiés, ils cherchent à se cacher. Ah, ils sont menacés par des arrestations intempestives, par une expulsion. Ils sont dans des forêts, dans des villages, à la frontière du Bangladesh. Et ils sont dans un état de misère avec le manque d'aide humanitaire très 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 important quoi. Donc il faut absolument que le gouvernement birman se reprenne et comme dit Ronan à la dernière action urgente, nous allons suivre cette action et essayer de faire pour que cette minorité puisse avoir c'est difficile de dire un sort meilleur quand on a lu toutes ces violations, oui, mais déjà, vous allez le savoir, vous allez pouvoir le dénoncer, on va pouvoir le dire au niveau international et on espère que le Myanmar et la Birmanie vont pouvoir se reprendre. Voilà.
Allez, Ronan, tu nous parles de Skype.
Tout à fait, tout à fait. Alors, déjà, dans cette table, qui connaît Skype ?
Moi.
Ah ben, moi aussi.
Alors là, Françoise, elle m'a surpris parce que je m'attendais. Donc, Françoise, tu utilises Skype ?
Non, je ne l'utilise pas, mais je sais ce que c'est.
Ben, on peut causer à des gens qui sont loin, on les voit sur l'ordinateur, puis ça coûte
tout
pas cher.
Tout à fait, mais il y a un risque. Donc, je vais vous en parler.
Oh là là, ça y est.
Donc, Skype est utilisé à travers le monde. Le logiciel Skype permet, comme a dit Françoise, à deux personnes séparées par un océan de tenir des conversations audio. Donc, jusqu'à présent, il y a tout qui est... C'est quand même quelque chose de positif. Et en plus de partager des fichiers.
Et ça coûte pas cher.
Mais il y a un défaut majeur. Ces échanges privés sont facilement accessibles des gouvernements et pirates. Pourtant, ils pourraient rester privés si Microsoft, qui est propriétaire de Skype, mettait en œuvre le chiffrement de bout en bout. Donc, en 2013, en révélant l'ampleur de la surveillance de masse, Snowden, donc on a déjà notre ami Snowden, nous mettait face à cette réalité glaçante. Les conversations que nous tenions à nos bureaux, chez des amis ou dans l'intimité de notre chambre pourraient être écoutées et même enregistrées. Donc, en fin de compte, il y a une solution à ça. Justement, il y a une pétition actuellement sur le site d'Amnesty que tout le monde peut y signer. Donc, on demande à Microscope de faire ce qu'ils appellent le chiffrement. Alors, sans rentrer dans la technique, j'explique un petit peu ce que c'est le chiffrement. Lorsqu'un contenu est chiffré sur Internet, il ne permet qu'aux personnes détenant la clé de chiffrement de le lire. Tous les autres ne voyant qu'une suite de caractères incompréhensibles. Ils voient donc les gens ne peuvent pas dire exactement ce qui s'est passé. Et donc, avec le chiffrement, de bout en bout, seules les personnes qui communiquent entre elles détiennent la clé de chiffrement. Ainsi, l'entreprise qui fournit des services web ne l'a pas en sa possession, ce qui signifie que le contenu des échanges ne lui est pas accessible. Avec le chiffrement, de bout en bout, une entreprise est dans l'incapacité de fournir les contenus à des gouvernements. De même, si un gouvernement s'introduit sur le serveur d'entreprise, elle est dans l'incapacité théorique de décrypter les données. Donc, a priori, Microsoft s'est engagé publiquement à respecter les droits humains, donc le droit de la vie privée et la liberté d'expression. Donc, pour l'instant, ils se sont engagés, mais ils n'ont pas encore mis ce système de chiffrement que, justement, pour ne pas faire de pub, mais Apple, par exemple, avec FaceTime ou avec Facebook, ils ont mis ce système de chiffrement. Mais par contre, au niveau de Skype, il n'y en a pas. Donc, il y a une pétition actuellement, si vous êtes intéressé, sur le site, pour demander justement à Microsoft, qui s'est engagé pour les droits humains, de mettre ce système de chiffrement.
Ah oui, ça c'est une bonne idée.
Alors, on va écrire avec des petits chiffres qu'on ne comprend pas, ou c'est eux qui vont faire ça entre nous ?
Maintenant, le chiffrement, en fin de compte, c'est rentré trop dans la technique. En fin de compte, c'est ceux qui mettent un genre de logiciel.
Oui.
C'est-à-dire qu'une personne, même n'importe quel gouvernement, ne peut pas. Il n'y a que les personnes qui communiquent, en fin de compte, qui peuvent s'écouter. Une personne extérieure
ne peut pas.
Donc, ça serait une belle sécurité pour tout le monde. Et on parle aussi quand on parle.
Parce qu'en fin de compte, l'excuse, et c'est toujours la même excuse, c'est toujours le terrorisme. C'est...
Il faut savoir tout ce que dit tout le monde.
Voilà, tout à fait. Mais alors qu'en fin de compte, c'est une connerie monumentale.
Et puis nous, on a l'autre côté de la lorgnette, c'est-à-dire que quand c'est des groupes de défenseurs des droits humains, voilà, ils voudraient bien pouvoir transmettre des infos sans que ça soit chopé par tout le monde.
Et surtout, il y a plein de journalistes. Il faut savoir que les journalistes à travers le monde, les défenseurs des droits humains, les militants et les lanceurs d'alerte dont utilisent Skype.
Et oui.
Tous utilisent Skype. Donc c'est facile pour le gouvernement, justement,
de repérer les gens et tout ça.
Donc elle est signée, c'est important. Voilà.
Voilà. Et il y a deux minutes, là, tu parlais de Snowden, mais il a pas été gracié par Obama.
Bah non, justement,
il a toujours des soucis, ce gars-là.
Ah, tout à fait.
Alors, la seule bonne nouvelle, c'est que...
Et je pense que Trump ne va pas laisser rentrer en Amérique non plus.
Là, il est mal. Si Obama n'a pas... Oui, on a... Ouais. Enfin, on va espérer quand même. Tout mais ce fait. Qu'il a, c'est que la Russie a prolongé son visa. Donc, il n'y a plus un visa qui s'arrêtait, je crois, au printemps.
Tout à fait. Tout à
voilà,
fait.
On va voir ce...
Bon, je pense qu'on va pouvoir peut-être faire une petite pause.
Musique.
Oui, oui, oui.
Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Better days this girl has known. Better days so long ago. Hold the phone, won't you stop this show? Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's ruining me. Smart for my own good. I just don't do the things I know I should. There's bound to be some better way. I just got one thing more to say, and that is stop this game. Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's wrecking me, yeah.
Voilà, c'est nous, Amnesty. On est de retour de saison après ce formidable morceau. Bah, formidable, moi j'aime bien.
Il aime Ronan.
Oui, tout à fait. De Dania Kroll et qui s'appelle Stop the World.
Voilà, et bien après ça, Claire Lise nous parle des réfugiés.
Alors, je vais. Souvent, je prends la parole pour parler un petit peu des migrants et de la situation au niveau local, puisque je fais partie aussi du CFED Asti d'Evreux, qui est donc la fédération de solidarité envers tous les immigrés. Et j'assure la permanence le samedi matin pour les personnes qui viennent pour la première fois au local du CFED pour demander de l'aide, pour régulariser leurs papiers, pour les aider pour leur récit de vie, pour l'asile ou des choses comme ça. Donc le CFED Asti d'Evreux, comme d'autres associations, comme RESF 27, s'inquiètent de plus en plus de, justement du durcissement des lois et de certaines circulaires qui sont émises par les ministères envers les préfectures et de l'accueil de plus en plus difficile qui est fait au guichet des préfectures pour les personnes qui essayent de faire valoir leurs droits en demandant des titres de séjour, en essayant de régulariser leur situation et qui sont parfois malmenés même au guichet de la préfecture, ce qui n'est pas normal. De plus en plus souvent, je vous disais que les lois se durcissent. Il faut savoir aussi que souvent, les personnes qui sont réfugiées ont peu de moyens. Peu de moyens en monnaie.
Financiers.
Peu de moyens financiers. Or, un titre de séjour, il faut le payer. On vous en a déjà parlé. Ce sont des taxes qui sont des fois exorbitantes parce qu'en fait, ça se renouvelle tous les ans. Quand un titre de séjour est à renouveler tous les ans, il faut payer, je ne sais plus de mémoire, mais environ 280 euros, par exemple, pour un titre de séjour. Souvent, quand on leur redemande pour renouveler un document, il faut un extrait d'acte de naissance. Quand ces personnes viennent de pays en guerre ou de pays où l'état civil fonctionne un peu moins bien qu'en France, ici, vous allez sur Internet, vous demandez votre extrait d'acte de naissance et vous recevez gratuitement par la poste quelques jours après. Pour les personnes réfugiées, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pays dont les ambassades n'assurent même plus le fait qu'on puisse avoir, ou les consulats n'assurent même plus le fait qu'ils puissent avoir ces documents. Pour pouvoir demander un passeport, les gens qui sont issus de la République démocratique du Congo, par exemple, il y a tellement de corruption à l'ambassade de RDC à Paris, qui sont obligés de faire la route jusqu'à Anvers, en Belgique, pour demander un titre, pour demander un passeport à l'ambassade de RDC à Anvers. Alors, ça met des mois. Et alors, ils payent ça très cher, parce que c'est entre 400 et 500 euros pour avoir un passeport. Et quand ils font une demande de séjour, des fois, ils n'ont que une attestation de demande de passeport. Avant, cette attestation suffisait pour être jointe à la demande de titre de séjour. De plus en plus, la préfecture et certaines font du zèle, et notamment la préfecture de l'Eure, n'acceptent plus qu'il y ait une attestation de demande de passeport. Ils exigent le passeport. Donc, si la personne n'a pas son passeport, elle ne peut pas demander un titre de séjour. Voilà, et s'ils n'ont pas l'acte de naissance, c'est pareil. Alors des fois, ils laissent tous leurs documents parce que le dossier n'est pas complet à la préfecture, qui perd les dossiers, mais bah, tant pis, les gens, il faut qu'ils refassent parce que...
Mais par l'autre, tu soupçonnes un petit peu la préfecture de faire esprit, d'égarer certains dossiers ou...
Bah, disons qu'il y a quand même... On soupçonne parce qu'on commence à mettre en relation ce qui se passe dans d'autres préfectures et on se rend compte qu'il y a, c'est pas des textes écrits, mais c'est quand même des applications qui sont de plus en plus compliquées.
Alors, tu voudrais dire que c'est pas pareil dans tous les départements ?
Non.
Intéressant.
Il y a des zones où, en fait, le droit n'est pas appliqué de la même façon selon les préfectures. Et il y a des préfectures qui sont plus dures que d'autres. La préfecture de l'Eure n'est pas simple envers les réfugiés et il y a beaucoup de refus de guichet. Alors pour les demandeurs d'asile, la demande d'asile se fait à Rouen. Hein. Et donc, ils doivent aller à la préfecture de Rouen. Il faut savoir aussi qu'il y a des lois au niveau européen, au niveau européen qui ont été mises en place, et notamment en matière de droit d'asile. Je vous en ai déjà parlé une fois, il y a ce qu'on appelle la procédure Dublin, qui est une abomination. Donc, en fait, des personnes, par exemple, sont en Afrique, souhaitent partir de pays. Je pense à, par exemple, à des réfugiés de RDC qui s'étaient réfugiés en Angola. Et il se trouve que, par exemple, en 2015, l'Angola a voulu refouler de son territoire tous les ressortissants de RDC qui ne voulaient pas repartir en RDC puisqu'ils étaient aussi menacés là-bas. Donc, certains sont venus en Europe. Ils ont réussi à avoir des passeports. Les passeports en Angola... Vous allez dans une ambassade, c'est plutôt une ambassade du Portugal, par exemple, pour avoir des visas vers l'Europe. Et ils arrivent avec des documents, parfois des passeports d'emprunt, etc. Ils arrivent, bon gré mal gré, ils arrivent jusqu'en Europe. Il faut savoir que donc, quand vous arrivez en Europe, on va tenir compte du visa que vous avez. Si vous avez un visa qui a été donné par une ambassade du Portugal, on va considérer que vous devez demander asile dans le pays qui vous a donné le visa, donc c'est le Portugal. Si vous arrivez dans des boat people, là, les bateaux en Italie, et que la police vous fait descendre du bateau, vous avez échappé au naufrage en Méditerranée, mais vous atterrissez sur les îles grecques ou sur les îles d'Italie. Eh bien, la police va obliger les gens à donner leurs empreintes. Ce n'est pas de bon gré, ce n'est pas leur choix final. Hein. Et puis, la Grèce ou comme l'Italie ne peuvent pas absorber tous les réfugiés qui arrivent sur leur sol. Eh bien, en fait, si les empreintes ont été laissées dans ces pays, on va aussi considérer que en fait les demandeurs d'asile doivent être refoulés vers les pays où ils ont laissé leurs empreintes. Certains empruntent des routes beaucoup plus compliquées. Par exemple, d'Afrique, ils vont passer par la Russie, par la Russie, et arriver par exemple en Lettonie, qui est pas forcément le pays le plus démocratique du monde, disons, en matière de droit d'asile. Et c'est pareil, en fait, on leur reprend leur passeport, s'ils en avaient, on leur confisque, on les met en centre de rétention et on leur met une obligation à quitter le territoire. Je pense à une jeune femme qui est arrivée en Lettonie de RDC, qui était en Lettonie avec sa petite fille, qui s'est retrouvée à réussir à fuir la Lettonie après un an et demi de centre de rétention et une OQTF, se retrouve en France, demande l'asile. Eh bien, en France, qu'est-ce qu'on lui fait ?
On
lui met une procédure Dublin. Eh bien, non.
Où est-ce qu'elle a mis ses petites empreintes ?
On lui met une procédure Dublin et on lui dit « Mais madame, vous êtes arrivée par la Lettonie, mais retournez-y. » Et maintenant, on applique la procédure Dublin. Enfin, avant, il y avait des gens qui était sous mesure Dublin, mais en fait, la mesure ne s'appliquait pas forcément. Ce qu'on voit en ce moment au niveau de la préfecture de l'Eure et des préfectures de partout en France, c'est qu'il y a une application de la procédure Dublin et qu'ils ont une attestation comme quoi il y a un retour imminent vers la Lettonie ou vers le pays dont
ils ont donné leurs petites empreintes.
Donc c'est une abomination, c'est à l'encontre des droits humains, c'est à l'encontre du droit des personnes de pouvoir aller vers le pays de leur choix. C'est une abomination et on va vous demander de plus en plus de prendre position et de signer des pétitions en faveur des assouplissements de ces mesures. Enfin, je ne suis pas certaine qu'on a...
Tu seras toujours vigilante sur les lois et nous raconter ce qui se passe vraiment dans l'heure.
Mais là-dessus, on te fait confiance. Hein,
deux minutes, je vais quand même vous dire, cher auditeur de Principe Actif, que je ne suis pas content.
C'est sa colère.
Je ne vais pas crier, mais je ne suis pas très contente après toi, cher auditeur de Principe Actif, parce que ça fait déjà deux fois que je te parle d'une pétition qui s'appelle « Le droit de vivre sous un toit est bafoué à Évreux et dans l'Eure ». Cette pétition, elle a été montée par le collectif CFED Asti d'Evreux, par RESF 27, par l'association Un Toit Sous la Main, par la Pastorale des Migrants, le Secours Catholique. Enfin, il y a une dizaine d'associations qui se sont associées, qui ont monté un collectif migrant par rapport au problème du logement des personnes SDF et des personnes migrantes qui n'ont pas de toit en plein hiver à Évreux. Cher auditeur de Principe Actif, je t'ai parlé de cette pétition donc deux fois. La dernière fois, il y a 15 jours...
On s'en rappelle, était là.
Donc c'est sur change.org qu'il faut aller signer cette pétition. Et je suis allée voir plus de 8 jours après si on a vu des soutiens supplémentaires. Zéro.
Que nenni.
Zéro signature. Que fais-tu, auditeur de Principe Actif? Faut que je m'énerve à chaque fois. Mince alors. Donc, s'il vous plaît, allez signer cette pétition parce que c'est important. On va pas attendre la fin de l'hiver, mais ils ont besoin d'un toit et d'un toit au chaud. Donc merci pour eux.
Je pense que dans 15 jours, dans notre prochaine émission, on va peut-être donner les résultats.
Parce que Claire-Lise, elle lâche pas.
Surtout, j'ai attrapé un ulcère. Hein, si
la prochaine émission, on vous dira si les auditeurs préservatifs ont signé la pétition.
Allez-y, c'est important. Chers auditeurs, on sera content de vous retrouver samedi 4 février au Cadran. Une pièce est présentée par le groupe du théâtre qui s'appelle Paris, où là joue un artiste qui a le rôle d'un réfugié congolais. Et cette pièce est donc soutenue par Amnesty. Vous pourrez
nous
rencontrer.
C'est dans le cadre du partenariat avec la scène nationale,
voilà,
Françoise.
C'est ça. Oui, c'est ça. Et alors, vous pourrez nous retrouver autour de notre table de presse.
Voilà. Et si j'ai bien lu un peu...
à 20h.
Voilà, c'est un double rôle, c'est-à-dire on est réfugié, mais on est aussi quelqu'un d'autre dans la vie ou dans les congés.
C'est là qu'on parle des sapeurs, non?
Oui, voilà.
Il n'y a pas les pompiers.
Il n'y a pas les pompiers, parce que moi,
entre nous, quand j'ai vu la première fois, j'ai dit sapeur, mais je ne connaissais pas.
Non, pas le camion de pompiers.
C'est sapeur du verbe saper, je pense.
Tout à fait.
Bon, écoutez-nous à notre prochaine émission, le 14 février, à partir de 19h. Bonsoir.
Là, c'est la radio. Bonsoir à
allez,
tous.
Bonsoir à
merci.
Tous.
Merci. Et
bon,
allez signer.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un